Session Les Trois Sagesses de Père Marie-Dominique Philippe, le 14 septembre 1999 à Saint-Jodard.
S'il y a des questions, n'hésitez pas de les écrire. Toute question doit être résolue autant qu'on le peut. Pour qu'on avance. Il ne faut jamais étouffer une interrogation. Notre intelligence avance par les interrogations. Et alors évidemment, il ne faut pas susciter des interrogations artificielles et fausses. Bon, ça n'avance pas du tout. On se plonge alors dans la pure logique. Mais les vraies interrogations. Qu'est-ce qui caractérise la philosophie, je parle d'aujourd'hui, des sciences modernes, du 15e, 16e, 17e, 18e siècle, et celles qui naissent aujourd'hui, c'est que le philosophe cherche ce qu'est l'homme. C'est son intérêt. La science est particulière. Elle cherche quelque chose du monde physique. Et dans le monde physique, l'homme appartient à ce monde physique par son corps. Le philosophe recherche ce qu'est l'esprit et le développement de l'esprit. Et quand on regarde l'histoire de notre philosophie européenne, on peut dire que très nettement, il y a la continuation de la philosophie grecque. On interroge ce qu'est l'homme, ce qu'est l'univers. Et à partir des théologiens Occam, Descartes, on interroge ce qui caractérise la vie propre de l'esprit, la vie propre intérieure. Vous voyez, il y a deux types d'expériences. On pourrait dire qu'il y a trois types d'expériences, ce serait plus juste. Il y a l'expérimentation, les sciences d'expérimentation. Il y a l'expérience simple, le philosophe pourra dire naïve, les sciences pourront dire naïve, Descartes pourra dire naïve. Je vous parle. En vous parlant, j'ai l'expérience de vous parler que si c'est pas trop dur ce que je dis, vous suivez. Si j'arrive à un certain moment où vous êtes fatigué, où on est dans quelque chose de plus abstrait et vous avez de la peine de suivre, on a l'expérience d'un enseignement, on a l'expérience de tout ce qu'on a fait depuis le matin déjà, l'expérience de la prière, l'expérience du silence, l'expérience aussi du petit déjeuner. C'est une expérience. Puis l'expérience après, se mettre à écouter un cours, c'est encore une autre expérience. Dans toute votre journée, vous avez des tas d'expériences qui sont des expériences à la fois objectives et subjectives. Et ça varie. Vous êtes levé ce matin dans la joie, se réveiller dans cette grande fête de la croix glorieuse, où vous êtes au contraire dit « Ah, c'est les grands carêmes monastiques qui commencent. On en a jusque Pâques. Hein. Non, c'est pas commode. Et alors, on prend une tonalité du carême. Pas celle qui est donnée dans l'évangile, mais celle qui est donnée dans la dévotion. Parce que réjouissez-vous, parfume-vous la tête. Pas été demandé des parfums, pour débuter le grand carême. Non, parfumez-vous la tête. Prenez-le symboliquement. Et puis au contraire, le carême, on montre que c'est dur. Bon, toutes nos journées se passent en expériences. Des tas d'expériences. Et pour être bien et entièrement à ce que vous faites, il faut savoir, j'écoute un cours. Écouter un cours, ce n'est pas bâiller, ce n'est pas dormir, ce n'est pas se reposer, ce n'est pas... Écouter un cours se réveille tout le temps. On comprend, notre intelligence est là pour être éveillée. On est attentif. Quand vous prenez votre petit déjeuner, on ne vous demande pas d'être très attentif à savoir si le pain que vous prenez n'est pas empoisonné, si le pain que vous prenez sera digestible, et ainsi de suite. Vous n'analysez pas beaucoup, vous mangez. C'est bon, ou c'est pas bon. C'est vrai. Et ainsi de suite. On est attentif. Alors, vous voyez, il y a l'expérimentation du savant. L'expérimentation du savant, ce n'est pas l'expérience. Pas l'expérience du philosophe. Le philosophe sait qu'il y a deux types d'expériences, internes et externes. Une objective et l'autre subjective. L'expérimentation, elle est commandée par une recherche. Elle est commandée par une hypothèse de recherche. Et je vois si ça va se réaliser. Donc, cette expérience d'expérimentation est déterminée dans un sens particulier et dans des circonstances spéciales pour que ça puisse bien se faire. Et quelquefois, il suffit que une de ces déterminations soit faite pour que l'expérimentation soit complètement falsifiée. On peut modifier une expérimentation. Quand on a étudié la seule de Turin pour en savoir la date, on a fait une expérimentation. On l'a faite, on le sait maintenant, dans tel sens, pour qu'il y ait une réponse dans ce sens-là. Beuve Meury, qui était directeur du Monde, il n'y a pas si longtemps, était venu à Fribourg faire comprendre qu'est-ce que c'est que l'objectivité du journaliste. Comme ça m'intéressait d'entendre cette recherche, à Fribourg, une conférence sur la vérité. Je voulais voir comment Beuve Meury parlait de la vérité. Je m'étais bien placé, bien en face de lui, en l'écoutant. Alors il me regardait, je ne me connaissais pas, il me regardait. Et puis il avait tout un coup d'encensoir sur Fribourg, ce lieu où des thomistes qui réfléchissent sur Thomas d'Aquin. Eh bien, je vais vous dire qu'est-ce que c'est que l'objectivité du journaliste. Ça éclaire énormément sur l'objectivité du Monde. Le journal. Alors, il disait, l'objectivité du journaliste, il est envoyé pour voir telle fête, comment ça se passe. Bon, il réfléchit. Cette fête, c'est du Parti communiste. Ça doit se réaliser de telle et telle manière. Donc, vous voyez, il se fait une hypothèse de la fête. Et si la fête se réalise selon son hypothèse, il est objectif. Voilà ce qu'il nous est dit. Ah oui, curieux comme objectivité. C'est l'idée du journaliste qui va mesurer l'expérience qu'il va avoir. Et qu'est-ce qu'il va voir tout de suite? Quelque chose qu'il désire voir vont être mis en pleine lumière, les choses qu'ils ne veulent pas voir, qu'ils ne veulent pas voir, restent dans l'obscurité. Et son et lumière, hein, c'est très curieux comme objectivité, et c'est très intéressant, parce que vous projetez dans la nuit une partie. Vous ne voyez pas l'ensemble, une partie, son et lumière. Puis une autre partie, selon les différentes époques, et vous les mettez en pleine lumière. Oui, il y a une analyse donc. Dans cette expérience, il y a une expérimentation. On a une hypothèse. C'est très bien, c'est pas mauvais. Mais il faut savoir que c'est une expérimentation, vérification de l'hypothèse. Est-ce que l'hypothèse est juste ? Cette hypothèse de recherche. Cette hypothèse de recherche implique une interrogation. Toute hypothèse de recherche est une interrogation. J'interroge. Et puis j'expérimente. Et quand je le fais astucieusement, je le fais en vue de vérification. Alors, c'est très net vis-à-vis d'un journal orienté quant à sa recherche. Voilà ce qu'il faut montrer. Voilà ce qu'il faut progressivement modifier l'intelligence du lecteur. Tous les lecteurs du monde, au bout d'un certain temps, pensent comme le monde. C'est une objectivité parfaite. On appelle ça une manipulation, n'est-ce pas ? Alors, quand elle se fait homéopathiquement, la manipulation, on ne s'en aperçoit pas. Et au bout d'un an, c'est fait. Si c'est une grosse manipulation, on s'en aperçoit. Tiens, aujourd'hui, j'ai une peine à voir extraordinaire. Et ce qu'on m'a donné, on m'a dit, je vois tout en rose. C'est magnifique. Mais je vois tout en noir. Vous voyez, je dis ça, c'est parce que déjà, le mot expérience, il faut comprendre ce que c'est. Il y a diverses modalités de l'expérience. Et il y a l'expérience du journaliste astucieux, directeur d'un journal comme Le Monde. Il sait ce que c'est, le journal le plus intelligent qui existe. Hein, le directeur du Monde le sait. Il va orienter les curés, tous les curés le voient, orienter le clergé, orienter petit à petit l'Église. L'empêcher quand même d'être ce qu'elle doit être. Elle doit être dans le mouvement moderne, dans l'espérance du monde d'aujourd'hui, et ainsi de suite. Là, vous voyez, on dit, c'est objectif, vous voyez, l'expérience. Mais non, votre expérience est commandée par une hypothèse. Et si vous êtes astucieux, vous mettez les ingrédients au bon moment. Je dis, ça colle. Oui, ça colle, oui. Votre hypothèse se confirme. Donc je suis dans la vérité. C'est très subtil comme sincérité. Hein. C'est très subtil. C'est très astucieux. Et on arrive à manipuler comme ça. Et c'est dans ces aspects-là qu'on voit le mieux ce que c'est que l'expérimentation artistique, politique. Et puis il y a l'expérience toute simple. Alors on dira naïve, quand je touche cette table. Et puis il y aurait là un plat d'argent ou de zinc, je mettrais ma main dessus. Et l'aveugle a un toucher très, très particulier. Il faut parler à des aveugles pour voir ce que c'est que toucher. Parce que le toucher va remplacer la vue. Et la vue, très facilement, elle se trompe. Et le philosophe fait tout de suite la distinction de diverses expériences. Il y a des expériences où le toucher est très important. Des expériences où la vue est très importante. Les étoiles, je ne peux pas les toucher. Je ne peux que les voir. La lune, je ne peux que la voir. Heureusement, d'une certaine manière, parce qu'elle est assez froide. Le soleil, et ainsi de suite. Et vous avez 5 types d'expériences différentes. L'odorat, le goût. Il y a des gens qui ont besoin de tout goûter. J'allais presque dire de tout lécher. Même les statues. Et par là, elle les touche d'une façon très particulière. Et dans les musées. Parce qu'il ne faut pas voler les statues, alors. Si vous les touchez, ça sonne. Il y a un vieux soleil, vous avez touché, pas le droit de toucher. Interdiction de toucher. Mais si on interdit de toucher une statue, il y a une connaissance de la statue que n'est pas. La statue n'est pas faite uniquement pour être vue, elle est faite aussi pour être touchée. C'est le problème de la sculpture. Quand vous voyez un sculpteur, il voit, il regarde, mais il touche aussi. Et le toucher donne une connaissance particulière. Alors vous voyez, le philosophe s'intéresse à ça. C'est que l'expérience implique la connaissance des sens externes. Et il y a une expérience interne qui implique une connaissance de mémoire, une connaissance spéciale, de cogitative, d'estimative, et d'ostienne, et de mémoire, et d'imagination. À certains moments, la connaissance interne, je décolle, je pars dans l'imagination, ça arrive assez facilement. Dans la méditation du matin, dans la contemplation du matin, je décolle. Et c'est interne. Enfin, il n'y a pas un moment où ça se met à sonner. Je quitte le réel, et j'entre dans l'imaginaire. Ce serait curieux si ça sonnait. Alors j'aurais mon voisin, celui-là, c'est ça. Et l'autre, dans le troisième encore. Ça fait partie de l'expérience interne, l'imagination. Vous avez une expérience de l'imagination. Et quelquefois, cette expérience d'imagination est tellement forte que vous ne savez pas si c'est réel ou pas réel. Dans le désert, on a des hallucinations. Ah tiens, tiens. Qu'est-ce que c'est qu'une hallucination ? C'est lorsque l'imaginaire passe devant l'expérience du toucher. C'est l'expérience du toucher qui est la plus existentielle. Quand je vois la table de loin, est-ce qu'elle est réelle ou est-ce qu'elle n'est pas réelle ? Est-ce que aujourd'hui on peut projeter ça et faire une table intentionnelle ? Rien n'est réel, c'est pour ça qu'il faut la toucher. Des fleurs artificielles, elles sont quelquefois tellement bien faites, avec des couleurs étonnantes. Vous vous demandez si c'est artificiel ou pas. Vous les faites sentir. Oui, je sens. Je peux arriver à les faire sentir, ces fleurs artificielles. Elles sentent artificiellement, mais je les fais sentir. Il faut le toucher. Et si votre toucher est assez fin, vous arrivez tout de suite à distinguer si c'est artificiel ou si c'est réel. C'est le toucher qui est le plus difficile à tromper. C'est le toucher. C'est le sens le plus réaliste. Or, dans toute expérimentation, le toucher est absent. C'est curieux. Le philosophe a gardé le toucher. Parce que le jugement d'existence, de la réalité existante, implique le toucher. Et personne ne peut le remplacer, le toucher. Je peux employer, si vous voulez, des instruments, alors le toucher n'est plus immédiat. Prenez des instruments quand il s'agit de toucher une plaque de brûlante. Jusqu'à une certaine chaleur, vous pouvez le toucher, mais à partir d'une certaine chaleur, vous ne pouvez plus le toucher. Vous devez prendre une pince, et la pince n'augmente pas votre toucher, au contraire, elle le sépare. Tout ce que vous touchez par une pince, avec une pince, c'est le prolongement de vos lois. Vous avez des lois de longueur extraordinaires, grâce à vos touchés, grâce à la pince, je veux dire. Et la pince prolonge, mais c'est un instrument qui vous coupe. Voyez, alors si ça, c'est le phénomène très particulier d'aujourd'hui, c'est qu'on a des tas d'instruments extraordinairement importants. Et ces instruments coupent du toucher. Notre civilisation est une civilisation coupée du toucher. Ça, on peut le constater. J'ai lu une fois un article là-dessus à propos de l'expérimentation en disant que c'est la vue. Et c'est vrai, c'est la vue. C'est la... ceux qui conduisent les TGV. C'est intéressant. On ne peut plus y aller, mais au début on pouvait, n'est-ce pas? Et moi je me suis précipité tout de suite dans la cabine du celui qui conduisait pour voir le changement avec la conduite des autres. Parce que ça avait une telle vitesse. C'est affolant. Alors si jamais il s'endort, ça peut arriver. Il faut un contrôle. Et donc il faut que tout le temps, il touche quelque chose pour montrer qu'il ne dort pas. Parce que s'il dormait, ça s'arrêterait. Et là, immédiatement, ça s'arrêterait, le temps. Tu vois, lentement, mais il s'arrêterait. Pour que tout le temps se soit éveillé. Il fallait un contrôle. Vous voyez ? Alors, c'est l'artificiel qui contrôle l'homme. C'est curieux, ça. Hein ? C'est la technique qui survend l'homme. Et la technique, elle peut se tromper. Ça peut arriver. Elle dort de temps en temps. Ce qui manque d'huile, il y a quelque chose qui ne va plus. C'est les vierges folles. Alors, il manque d'huile. Et on vit un monde où l'instrument est de plus en plus important. Par le fait même, le contact direct du jugement d'existence tend à disparaître. Les soucoupes volantes. À un moment donné, on en parlait énormément des soucoupes volantes. Et je lisais exprès les différents articles qui se disaient il n'y avait jamais l'expérience du toucher. L'expérience de la vue, du bruit, de cette chose, tout ça. Le toucher. Le sens réaliste. Eh bien, toute la philosophie repose sur le toucher. Le réalisme. Parce que je fais l'étude d'un homme existant, vivant, moi-même. Il y a un toucher intérieur, un toucher extérieur. Pourquoi, en philosophie, des gens comme, des philosophes comme Lévinas, ont cherché toute leur vie l'autre? Est-ce que je peux atteindre l'autre? Est-ce que cette table est autre? Ou bien, au contraire, tout vient de moi. Qu'est-ce qui est premier, l'autre que je touche ou celui auquel je rêve, auquel je pense, auquel j'aime? Vous voyez, c'est très curieux et c'est très intéressant de savoir le point de départ. Quand vous lisez un philosophe, essayez de comprendre toujours son point de départ. Le point de départ. Après, il y a le développement. Et le point de départ. Sur quoi ça repose? Toute la philosophie réaliste repose sur l'expérience du toucher. Ceci est. Je suis. Première partie de la philosophie européenne, jusqu'à Descartes. Ceci est. À partir de Descartes, je suis. Je pense. J'aime. Occam avait dit avant Descartes, au XIVe siècle, premier, à partir de quoi commence votre philosophie, votre théologie? Intelligo et amo Socratem. Parce qu'il était franciscain. Et amo Socratem. Je pense et j'aime Socrate. Et Descartes a dit cogito ergo sum. Oui, c'est très très curieux ça. Et c'est si significatif de Occam à Descartes. Pour Occam, intelligo et amo Socratem, intelligo, je pense, j'intellige et j'aime Socrate. Descartes, cogito, c'est pas intelligo, c'est cogito. Cogito, je cogite. Cogito, ergo sum, et je suis. Alors, vous voyez comment la démarche de Descartes, c'est le retournement vers le sujet. Ergo sum, je suis. Peut-on encore trouver l'autre quand on s'est trouvé soi-même ? Tellement intéressant de se trouver soi-même. Intelligo, je pense et je suis. Je suis en pensant. Mais lorsque Descartes dormait, alors, est-ce qu'il existait encore ? Non ? Ergo sum, intelligo et dort. Tout est là. Et quand on regarde la fémologie, c'est la continuité de Descartes. Qu'est-ce qu'on étudie en premier lieu ? Le vécu. Le vécu intellectuel, le vécu amoureux, le vécu. C'est pas l'autre, c'est le vécu. Et on s'enferme dans le vécu. Dieu n'est pas dans le vécu. Dieu, c'est pas le vécu. Il est source du vécu. Il est à la racine du vécu. Je ne peux rejoindre Dieu que si j'ai un jugement d'existence du toucher. Oui. Et ceci, c'est capital, vous voyez. Et pour nous, vous voyez, pour nous, si nous sommes chrétiens, si nous sommes catholiques, la dernière encyclique du pape, à ce point de vue-là, est merveilleuse. Foi et raison, c'est merveilleux. Le pape affirme, l'Église n'a pas de philosophie. Alors tous ceux qui ont parlé de philosophie chrétienne, ils ont le bec dans l'eau. Et le pape affirme ça avec une force. Hein. L'Église n'a pas de philosophie. La philosophie, elle est de l'homme. Et l'Église, elle est de Dieu. Elle est du Christ. Elle naît à la croix. L'Église n'a pas de philosophie. Et l'Église emprunte sa philosophie aux hommes intelligents. Mais l'Église n'a pas de philosophie. Très peu de papes qui ont affirmé ça avec autant de force, autant de vigueur. L'Église n'a pas de philosophie. Après toutes ces querelles sur la philosophie chrétienne, le pape termine. L'Église n'a pas de philosophie. Il n'y a pas une métaphysique chrétienne, non, puisque la grâce présuppose la nature. La grâce présuppose la métaphysique. La théologie présuppose la métaphysique. Et la métaphysique ne vient pas de ma foi. Ma foi est supérieure à la métaphysique. Quel est mon jugement d'existence au point de vue de ma foi ? Je crois. Je ne peux le toucher. Ah tiens, tiens. Non. Toute ma philosophie repose sur le toucher, sur l'existence. Alors, tiens, mais c'est pas critique, ça. Mais, non, mais est-ce que l'homme est critique ? Mais non, il existe avant de critiquer. Et le philosophe doit regarder ce qu'il y a de premier. C'est ça qui l'intéresse. Ce qui est premier, jamais ce qui est second. C'est toujours ce qui est premier. Qu'est-ce qui est premier ? C'est l'homme. Est-ce que l'homme est avant le philosophe ? Posez-vous la question. Hein ? Ça se résout tout de suite, je présume. À moins que vous avez une drôle de tête en disant que le philosophe est avant l'homme. Non, non, non. Cogito, ergo sum. Mais ergo sum, non. Je suis avant de cogiter. Ça, c'est sûr. Donc le je suis est dans le cogito. Pas ergo. Je cogite. Je suis cogitant, je suis pensant. Ça oui. Mais le je suis est avant. Alors, vous voyez, le désordre de Descartes, et tout le monde l'a suivi, jusque dans les salons de Lyon. Un salon de bons bourgeois de Lyon. bon bourgeois des soyeux, merveilleux, chrétien, très bon chrétien. Je commence par faire la critique de Descartes. Alors tout ça, non, Descartes c'est quand même quelque chose de si important. Et, vous voyez, la racine de toutes les erreurs modernes, ça vient de Descartes. Parce qu'on vit l'intelligence mesure de l'être. Étienne Gilson a très bien vu ça dans son étude d'historien. Il a très bien vu. Première partie de la philosophie européenne, l'être mesure l'intelligence. Seconde partie de la philosophie européenne, l'intelligence mesure l'être. Cogito ergo sum. Alors que l'homme existe avant le philosophe. À la fin de sa vie, Merleau-Ponty a compris ça. Mais il était trop tard, hélas. Il est mort avant d'écrire la découverte de l'être sauvage. Il a compris qu'il y a l'être civilisé, cogito. C'est l'être du salon. Petit chien qui a un petit manteau parce qu'il fait froid. Là, il a un petit manteau. Un chien civilisé. Cogito. Je cogite. Je suis avant d'être. Je veux dire, je pense avant d'être. Cogito. Oui, ça a l'air de rien. Mais c'est là où tout est faussé. Qu'est-ce qui est premier? L'expérience externe du toucher, l'expérience interne. J'ai l'expérience de mon cogito, je pense avec vous, donc j'ai l'expérience de ça. Mais j'ai l'expérience de mon avant de cogiter avec vous, j'existais. Je n'existe pas en fonction de vous. Malheureusement pour vous, je n'existe pas en fonction de vous, mais je pense avec vous. Là, je veux bien, je pense avec vous, j'aime avec vous, je suis avec vous, mais je suis et j'existe. Et quand je cesserai de parler, je continuerai d'exister, je pourrai prier. J'ai une autonomie suffisante pour pouvoir vous parler et prier. Et je change de registre. Alors, voyez, c'est ça qui est capital pour la philosophie, à la différence de toutes les sciences expérimentales. Où il y a, avant l'expérience du toucher, du je suis, il y a une des dernières thèses des frères Sorbonne, le jury, écoutez, disait tout le temps, mais qu'est-ce que vous voulez dire avec votre jugement d'existence ? Il m'avait dit, j'ai lu tout ce que vous avez écrit. Donc ils avaient très bien. Qu'est-ce que c'est que ce jugement d'existence ? Je ne comprends pas du tout ce que c'est que ce jugement d'existence. Et alors la discussion était là-dessus. Qu'est-ce que c'est que le jugement d'existence ? Ceci est. C'est le jugement le plus simple. Ceci est. Ceci n'est pas. Et la modernité consiste à dire ceci n'est pas. Avant, ceci est. C'est intéressant de savoir quel est le signe de la modernité. Le signe de la modernité, c'est de mettre la négation avant l'affirmation. Mais je ne peux pas fonder ma philosophie sur la négation. Ceci n'est pas. Mais je ne peux rien dire d'autre. C'est un absolu. Ceci n'est pas. Je me tais après. Tandis que quand je dis ceci est, je peux me poser la question. Qu'est-ce que c'est ? Après le jugement d'existence, tout de suite l'interrogation. Qu'est-ce que c'est ? Et Aristote a compris qu'il y avait quatre types d'interrogations. Quatre types d'interrogations. Et parce qu'il y a quatre types d'interrogations, il y a un ordre dans ces interrogations. Il y aura donc quatre manières différentes d'interroger. En quoi ? En quoi ce plat d'argent, en quoi, qu'est-ce, le tiesti grec, qu'est-ce, en quoi est-ce, d'où ça vient, quand il s'agit de la poterie, on dira d'où ça vient, des ateliers Saint-Jean. Atelier Saint-Jean, et on va voir cette poterie. Et ça a un caractère particulier parce que ça vient de là. Vous voyez, c'est bien évident. D'où ça vient? De Limoges. Et ainsi de suite. Et alors surtout hein, pour le vin, d'où ça vient? Bordeaux, Bourgogne, Côte-du-Rhône, d'où ça vient? D'où ça vient? D'où? C'est une interrogation très fondamental, et en vue de quoi? Vous voyez, vous avez là, et c'est vrai que ces interrogations, vous pouvez chercher. Depuis Aristote, on a cherché, on n'a pas trouvé une autre. Si vous en trouvez une autre, vous êtes génial. Et ça, c'est la grande découverte d'Aristote face à Platon. Bon, quand je suis... Vous voyez, Aristote est le philosophe qui interroge. Qui regarde, qui entend. Quand vous entendez hein, le bruit de l'avion, d'où ça vient hein, posez tout de suite la question. Alors, pour certaines réalités, alors c'est ça qui est l'astuce, pour certaines parties de la philosophie, en quoi est premier. Pour d'autres parties de la philosophie, en vue de quoi, causalité finale. Parce que ces interrogations, si je les pousse, aboutissent au premier. En quoi? Cause matérielle. Qu'est-ce que c'est? Cause formelle. D'où ça vient? Cause efficiente. En vue de quoi? Cause finale. Et alors s'ajoute, pour les objets d'art, sur le modèle de quoi? L'homme est image de Dieu, sur le modèle. Vous pouvez trouver que Dieu, aucun homme, aucun artiste est cause formelle, cause exemplaire de l'homme. Sur le modèle de quoi? Et il y a des philosophies qui ont remplacé la causalité finale par la causalité exemplaire. Alors ça, c'est très très grave. On peut dire que toutes les philosophies qui partent du sujet, je pense, remplacent la causalité finale par la causalité exemplaire. Sur le modèle de quoi? Au point de vue artistique, c'est normal de se poser la question, sur le modèle de quoi? Quand vous visitez un musée, vous voyez les maîtres, puis vous voyez l'école, sur le modèle de quoi? Répétition, causalité exemplaire. Avec la causalité finale, on ne répète jamais, on découvre. Avec la causalité exemplaire, on répète tout le temps. Vous voyez, alors là, vous commencez à comprendre que le cheminement du philosophe est très simple. Il est naïf. Si vous ne revenez pas comme des petits-enfants, vous n'entrez pas dans le royaume de Dieu. Tiens, tiens, il y a là quelque chose de semblable. Si vous ne revenez pas à ces questions très simples, qu'est-ce? En quoi? Et toujours attribué à l'homme. On a abandonné l'homme. On l'a laissé tomber. Et on a regardé ce qu'il fait. Et alors, on ne veut plus la philosophie qui cherche la finalité. On regarde l'exemplaire. Ce que l'homme est capable de faire. Ce qui est important, c'est de voir les dernières découvertes de l'homme. Alors, ces dernières découvertes, causes exemplaires. Tout le monde court après. Et on a fait une propagande. Dernier cri de la science, dernier cri du jouet. C'est toujours la même chose, hein. C'est la même coupe. C'est la cause exemplaire qui remplace la causalité finale. Et toute la conversion qu'on fait, au point de vue surnaturel, c'est de passer de la cause exemplaire à la cause finale. C'est très curieux, ça. Intérieurement. Parce que la cause exemplaire, c'est vous ou votre ami. Hein? J'aime beaucoup telle personne, c'est vraiment. Ah oui, c'est extraordinaire. Et je pense toujours à lui quand je vois d'autres personnes. Et je les juge en fonction de cet ami, cause exemplaire. Dans la cause finale, je regarde chacun intérieurement dans sa finalité. Et je ne peux pas le juger. Au niveau cause exemplaire, je peux juger. Pas au niveau cause exemplaire, pas au niveau cause finale. Il y a là quelque chose, vous voyez, d'extrêmement simple pour nous. Dès qu'on découvre la différence entre l'expérimentation et l'expérience. Et le passage, alors, de l'interrogation à la découverte du principe propre, on appelle ça l'induction. On passe du visible, que je constate, je vois cette petite tasse. Elle est très belle. D'où ça vient? Tout de suite, je me pose la question. Et on n'hésite pas de regarder en dessous où il y a la... Ça sort de telle fabrique. Alors, quand ça sort de la fabrique numéro 1, c'est pas pour les foulards, numéro 1, c'est « Oh, comme c'est beau !» Il a fallu regarder d'où ça sortait pour pouvoir dire que c'est beau. Parce qu'on n'a plus le regard direct. C'est très curieux, ça. C'est Grasset qui disait qu'il pouvait vendre n'importe quel roman, comme le roman de l'année, grâce à la propagande. Parce que les hommes d'aujourd'hui sont incapables de juger par eux-mêmes. Il regarde tout de suite, qu'est-ce que le voisin a dit? Que dit le journal? Que dit le monde? Ah, c'est ça. Et on juge en fonction de ça. Les médias. Les médias sont maîtres. Oui. Alors, il y a l'instrument et les médias qui font la très grande difficulté parce que ça nous sépare de la réalité. Ça nous sépare de nous. On arrive à se juger comme tout le monde nous juge. C'est très très mauvais, ça. On doit se juger si on est philosophe, dans une vision de sagesse, comme Dieu me regarde. Vous voyez, même des philosophes de la philosophie de Sénèque, le stoïcisme, aboutissez à ça. Le sage fait tout pour plaire à Zeus. Le sage fait tout pour plaire à Zeus. Il ne dit pas, le sage fait tout selon les propagandes actuelles, selon ce qui est reçu actuellement. Non. Référence à Dieu. Et le chrétien dira, il est chrétien. S'il a le souci d'agir toujours selon le bon plaisir du Père. Et celui qui est avant le Christ dira « J'agis selon la loi ». Et le chrétien, au-delà de la loi, il y a le Christ. Et j'agis en référence avec Jésus et le Père. Et le Père ne font qu'un dans leur volonté. Vous voyez, voilà le jugement de sagesse. On remonte tout de suite à la causalité finale. Mais pour pouvoir avoir un jugement de sagesse, il faut partir de l'expérience existentielle. parce que seul l'être me dépasse dans sa transcendance. Seul l'être me dépasse dans sa transcendance. Seul l'être et l'autre. L'être, la réalité qui existe. Vous êtes pour moi l'autre. Parce que vous n'êtes pas moi. Donc vous êtes l'autre. Et si vous êtes l'autre, vous me parlez de Dieu. Vous pouvez me parler de Dieu. Du fait même que vous existez. Dieu existe. Parce que vous n'êtes pas du côté de l'être, la cause de votre être. Et vous n'êtes pas la cause de mon être. Mais vous me conduisez. Et la philosophie consiste à passer de ce jugement d'existence à la découverte de l'être premier. Dieu. C'est tout ça que nous faisons. Et nous revenons tout le temps à cela. Et au terme, nous voyons que le jugement d'existence, très simple, ceci est l'autre. C'est l'autre, ceci est. L'autre se dresse devant moi comme un témoin de Dieu. Comme un témoin du Créateur. Tandis que je ne suis pas à moi-même témoin du Créateur. C'est ça qui est extrêmement curieux. Je suis. Mais quand je dis je suis, je le dis en référence à mon cogito. Et Dieu n'est pas dans ma pensée. Je n'expérimente pas Dieu au point de vue philosophique. J'expérimente un sentiment du divin. J'expérimente le tremblement religieux en face d'une réalité qui me dépasse complètement. Mais je n'expérimente pas Dieu. Et il me dépasse. Mais j'expérimente ce tremendum, comme on dit, ce frémissement d'être en présence de quelqu'un qui est mon Créateur, qui peut tout sur moi. Mais ce n'est pas ce frémissement qui me permet de découvrir Dieu, parce que ce frémissement, il pourrait encore me tromper. C'est parce que je regarde son existence, son être, que lui ne me trompe pas et érige un être. Une fois qu'on a bien saisi ça, ce cheminement tout à fait particulier avec la recherche des diverses causalités, les interrogations diverses. Je vous dis, toute la philosophie se résume à ça. On comprend qu'il y aura divers cheminements, ou si vous voulez, divers moments dans le cheminement. Je dis, je commence par le jugement d'existence. Oui, toujours. Et je reviens toujours à cela. Le jugement d'existence est présent à toutes mes recherches philosophiques. C'est ça le propre de la philosophie. Donc, il y a ce fil conducteur qui est présent à toute ma philosophie. Et à chaque moment de ma philosophie, je peux préciser comment je touche ce jugement d'existence et j'atteins ce principe. Ce jugement d'existence touche une réalité existante, moi, l'autre. Ça se ramène toujours à ça. Ça se ramène ou à l'autre ou à moi. Et ça se ramène quelquefois aux deux. Ça vaut mieux quand il y en a deux. Et je pose le sommet par l'intermédiaire de la cause. Je pose l'existence de Dieu, d'un être premier, d'un être qui n'est plus relatif, d'un être qui est premier. Et donc il n'est relatif à rien. Il est cet être premier. C'est ce qu'on appelle, dans un langage religieux, Dieu. Et le mot Dieu, voyez, n'est pas la découverte du philosophe. Le mot Dieu m'a été donné par Dieu. Tradition religieuse, avec souvent une inspiration religieuse, liée à une révélation. Le mot Dieu, je le reçois de la tradition, et je vois que ce mot Dieu n'est pas un mot symbolique, n'est pas un mot poétique, n'est pas un mot qui est uniquement donné pour qu'on attende. C'est un mot qui a sa signification réelle. Et cette signification réelle, je dois la chercher. Heidegger, donc tout à fait moderne, Heidegger dit, le philosophe, en face des traditions religieuses qui l'enveloppent, hein, on est enveloppé de traditions religieuses. Tradition religieuse catholique, on est né dans une famille chrétienne. On est né dans une famille protestante, calviniste, luthérienne. On est né dans une famille musulmane. On est né dans une famille juive. On est né dans une famille athée. Un positivisme violent. On sait ça. Qu'est-ce qui nous a porté ? Ces traditions familiales. Ces traditions familiales étaient liées à des traditions religieuses ou anti-religieuses, c'est encore religieux. À des traditions politiques, de droite ou de gauche. On est lié à ça. À travers tout ça, le philosophe essaie de voir ce qui est symbolique et ce qui est réel. C'est une autre manière d'entrer en philosophie. Parce que nous sommes tous nés dans un certain milieu, c'est évident. Un milieu familial où nous n'en avons pas. Si c'est... Alors c'est un milieu artificiel qui a quand même remplacé le milieu familial, tant bien que mal. Et nous essayons de saisir si ce qui est transmis par ces traditions religieuses est mythique ou réel. Et Heidegger dit ça avec beaucoup de netteté. Est-ce le mythos? Est-ce le logos? C'est exactement la même distinction. Le mythos, c'est toujours symbolique, et le logos, c'est toujours réel. L'intelligibilité qui nous conduit au réel. C'est beau, c'est dit avec netteté, très simple. Et c'est vrai. La philosophie de Platon, elle est née comme ça. Platon s'est demandé si tous ces mythes anciens toucher quelque chose de réel. Aristote aussi s'est posé la question, est-ce que tous ces mythes qui regardent le polythéisme est-il réel? Est-ce qu'il peut y avoir plusieurs dieux? Ou est-ce que contradictoire? Qui dit Dieu dit premier. Peut-il y avoir plusieurs premiers? Nécessairement monothéisme. Et tout ça, vous voyez, c'est l'effort du philosophe qui sépare le mythos, le mythe, du logos. Et ça, c'est une manière, dans une tradition religieuse, vous voyez, peut-être pour le noviciat, c'est peut-être la première manière dont on entre en philosophie. Il y a des mythes, et quelquefois on fait de la vie chrétienne un mythe. Ça arrive. Et on oublie que c'est la réalité. Le Christ, pour nous, est devenu un mythe. Un modèle extraordinaire. Un surhomme. Parce que ça, c'est vrai, c'est un surhomme. C'est vrai. Mais ce surhomme a existé comme un homme. Il a existé tout petit. C'est bon de voir ces deux parallélismes pour entrer en philosophie. tous les deux. Je vous dis, le premier, il est très ancien, Aristote. Le second, il est de tous les temps. De tous les temps, il y aura des mythes religieux. Et les hommes créent de nouveaux mythes. Hein. Le Père Noël, c'est un mythe. Vous l'avez déjà rencontré, Père Noël. Vous avez rencontré son âne, mais pas lui. Le Père, prenez tous les autres mythes. Prenez les mythes à l'intérieur du marxisme. On crée des mythes. L'homme a besoin de ça. Il a besoin de comprendre qu'il y a quelque chose qui le protège. Ou au contraire, quelque chose qui l'attaque. Alors, s'il a une racine bien éduquée, il aimera le tragique. Et quand le tragique n'existe pas, il le fait. On fait des tensions, des oppositions. Qu'est-ce qu'ils veulent avoir, le match ? Opposition, vous voyez. On fait des mythes. C'est très, très curieux, mais il faut essayer de comprendre cela au plan philosophique. C'est que l'homme aime ça. L'homme aime le tragique. Ça, c'est sûr. Il aime le tragique. À partir de là, on peut préciser donc les diverses parties de la philosophie.